Every day. Anywhere. Anytime. The Digital Gasbook Channel. Ebenezer International. Your station. Nous vous proposons d'écouter.
Bah, je crois qu'il y a de toute façon une espèce d'escalade dans les médias par rapport à la sexualité. Alors d'une part, effectivement, elle est utilisée dans tous les domaines, comme la publicité. Hein. Mais les médias sont en permanence en situation de concurrence.
Sociopode sur Ebenezer International. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, messieurs, bonjour et merci de m'accueillir chez vous avec ce tout nouveau numéro de Sociopode. Vous êtes bien sûr la radio qui prend à cœur votre édification spirituelle, la RCEI France, votre station. C'est votre ami podcasteur Franck Douristil qui vous parle depuis la France métropolitaine, le département du Val d'Oise. Dans quel que soit l'endroit que vous nous écoutez en ce moment, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, aux Antilles, sachez que vous comptez beaucoup pour nous, que dans nos prières, nous demandons toujours à Dieu d'utiliser nos différentes émissions pour vous aider à mieux le connaître. Comme annoncé depuis quelque temps sur notre page d'accueil et dans plusieurs de nos émissions, plus particulièrement Résonance et Familia Pod, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui à notre antenne un sexothérapeute chrétien, Monsieur Roger Eckermann, avec un diplôme universitaire de sexologie associé à l'enseignement de la sexologie de la faculté de médecine de Bobigny, Université Paris-Nord. Il est aussi membre de l'association interhospitalo-universitaire de sexologie et aussi membre de l'association des conseillers chrétiens. J'espère que vous garderez l'écoute, puisque ce programme a été préparé particulièrement pour votre plus grand plaisir. Dear listeners and friends of the Digital Gospel Channel, the Radio Ebenezer International, I greet you and welcome you in this brand new edition of Sociopod. I'm your friend, podcaster Frank Doe, still speaking, and it's really a great joy to know that you are choosing this radio station for your spiritual food. And this new edition of Sociopod, we will welcome Mr. Roger Eckermann. Mr. Eckermann is a specialist in sexual problem. We can say a counselor. Our guest was also a pastor in a church in France. Now, he spent all his life to give good counsels to people with trouble in their marriage, their sexual life, or their relationship. I hope that this program will be a great blessing for all of you while listening to this radio station. And don't forget to tell all your friends and relatives to join us at www.frankradio.podomatic.com. www.frankradio.podomatic.com. Stay in tune and pitch. Sachez bien, chers amis à l'écoute, que vous êtes sur la radio chrétienne Ebenezer International à l'heure de Sociopod, une édition spéciale consacrée aujourd'hui au sexothérapeute chrétien Monsieur Roger Eckermann, que nous aurons avec nous d'ici quelques instants. Mais juste avant, je vous propose ce titre de Philippe Decoureau. Cet artiste originaire de la Suisse, chant intitulé « À contre-courant ». Je vous souhaite une agréable écoute. Vous écoutez Sociopod sur Ebenezer International.
Tout va trop vite, tout va trop fort. Dépasser les limites, encore et encore. ce monde est fou, rien ne l'arrête. Plus de tabous, les hommes sont tombés sur la tête. Combien de murs, combien de chairs, tant de blessures et tant de haine. Dresser les barrières de l'indifférence, exploser les frontières de la violence. C'est pas vrai qu'on peut rien faire, même si ça n'est qu'un peu d'eau dans la mer. Moi, je suis prêt à marcher à contre-courant, défiant les vagues et les vents, résister à l'air du temps, délirant, décadent, oser la différence. Et des innocents de la gueule des géants, et briser les silences.
Sociopode sur Ebenezer International.
Gardez mon âme, restez debout, portez la flamme, allez jusqu'au bout, plutôt souffrir qu'abandonner, plutôt mourir que tomber sans se relever. Je veux pas marcher le dos courbé, je veux pas gémir, je veux pas m'enfuir face au danger et face au doute. Je sais compter sur celui qui conduit ma route. Lève-toi, viens, je t'emmène. Tu verras bientôt tomber les chaînes. Si tu es prêt à marcher à contre-courant, défiant les vagues et les vents, résister à l'air du temps, délirant, décadent, oser la différence.
C'était à contre-courant de l'artiste suisse Philippe de Courroux qui était notre invité dans une édition spéciale de Mykonak. Et comme annoncé depuis le début de l'émission, c'est bien le moment d'accueillir maintenant notre invité M. Roger Eckermann qui nous parle depuis la ville de Rosny-sous-Bois dans le 93 en France métropolitaine. Je vous souhaite une agréable écoute. Monsieur Roger Eckermann, je vous salue très cordialement tout en vous remerciant de nous consacrer ce temps précieux de votre planning pour la réalisation de ce programme. Je vous souhaite également la bienvenue à l'antenne de la Radio Chrétienne Ebenezer International.
Bonjour.
Bonjour. Alors, Monsieur Eckermann, dans quelques instants, vous allez nous parler de votre ministère bien particulier, puisque vous êtes un sexologue chrétien exerçant depuis des années ce travail. Mais tout d'abord, merci de bien vouloir vous présenter à nos auditeurs.
Alors, vous m'avez déjà présenté comme sexologue chrétien. Je suis d'abord chrétien. Et par ailleurs, je suis marié depuis 38 ans, père de 3 enfants, grand-père aussi de 3 petits-enfants. Alors effectivement, je suis aussi devenu sexologue, mais je reviendrai peut-être plus tard sur les circonstances dans lesquelles je suis entré dans cette profession.
Et votre engagement dans plusieurs associations chrétiennes sous-entend une rencontre en préalable avec Jésus-Christ. Comment et quand s'était passée cette rencontre ?
Mes parents étaient d'origine catholique pour ma mère, protestante pour mon père, mais sans aucune pratique religieuse. Et j'ai reçu une éducation qu'on pourrait qualifier de laïque et républicaine. Mmh. Alors il y avait des valeurs, le travail, l'honnêteté, le respect de l'autre, la solidarité. Mmh. Et puis il y avait des gens dans ma famille, un oncle et une tante en particulier, qui étaient déjà chrétiens et qui priaient pour mes parents. Et ils ont invité un jour mes parents à une réunion d'évangélisation. Comme j'avais 10 ans, mes parents n'ont pas voulu me laisser seul à la maison, ils m'ont emmené. Et c'est moi qui me suis converti. Mmh. Lors d'une réunion d'évangélisation, en entendant un appel, j'avais 10 ans et demi. Donc, mon engagement depuis dans l'Église et dans des associations chrétiennes n'est que la suite logique de ma conversion à Jésus-Christ. Mmh. Jésus-Christ m'a sauvé, il a fait de moi son enfant et je veux le servir.
Comment expliquez-vous un enfant à l'âge de 10 ans a entendu un appel et il s'est donné à Jésus-Christ? Vous vous souvenez du sentiment qui vous a traversé à ce moment-là?
J'ai compris le message, il y a eu un appel et je l'ai compris. Et d'ailleurs depuis je suis aussi très engagé dans l'évangélisation des enfants parce que j'y crois. Donc j'ai compris le message et lorsqu'il y a eu un appel qui invitait les gens à accepter de croire en Jésus-Christ, que Jésus-Christ était leur sauveur, eh bien je me suis levé.
Il y a des parents, monsieur Eckermann, qui disent qu'il faut laisser les enfants grandir comme ils veulent, comme ils le souhaitent, et qu'un jour, peut-être, ils auront décidé à faire leur propre choix religieux. Il semble que pour vous, c'est contrairement, puisque vous vous engagez aussi dans l'évangélisation des enfants.
Mais je m'engage en respectant leur liberté. Les enfants ne peuvent se tourner vers l'Évangile que s'ils l'entendent. Pour moi, mon travail en tant que chrétien soucieux de l'évangélisation des enfants, c'est de permettre à des enfants d'entendre l'Évangile. Mais ils gardent la liberté de répondre oui ou non, ou de ne pas répondre, ou d'en répondre plus tard.
De répondre plus tard. Monsieur Eckermann, ayant travaillé 36 ans comme directeur d'établissement auprès des adolescents et des jeunes, que vous a appris cette expérience ?
J'ai d'abord été instituteur pendant un an, et puis j'ai fait ensuite une formation d'éducateur spécialisé au ministère de la Justice pour m'occuper de jeunes délinquants et cas sociaux. Et puis 5 ans plus tard, après avoir commencé comme éducateur, je suis devenu directeur d'établissement. Et travailler auprès de jeunes défavorisés et de leurs familles m'a permis de voir autrement les relations humaines. Être confronté directement à la souffrance, à l'injustice, permet de ne plus avoir des jugements aussi catégoriques. Et puis les difficultés sociales étaient souvent liées à des problèmes psychologiques plus profonds, et j'ai ressenti un jour la nécessité de me former davantage. En outre, dans le milieu d'éducateurs, travailleurs sociaux, ma foi était considérée comme une faiblesse et n'était pas prise au sérieux. Et donc, après 15 ans de travail, j'ai repris des études de psychologie pour pouvoir étayer un peu ce que je disais avec des connaissances des sciences humaines et ce qui donnait du poids à ma foi.
Vous avez travaillé comme éducateur. Est-ce que vous avez de très bons souvenirs de cette expérience? Vous continuez encore à éduquer dans un autre domaine.
On continue à éduquer. Je garde des bons souvenirs, bien sûr, mais c'est le travail parmi les jeunes est passionnant. Et bon, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai continué. Je m'intéresse encore aujourd'hui aux jeunes. Mais c'est vrai que c'était une expérience intéressante. J'étais animateur, j'étais éducateur, et je m'occupais de jeunes. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais 21 ans, et je m'occupais même pas, et je m'occupais de jeunes qui avaient eux-mêmes jusqu'à 21 ans, puisque la majorité était à 21 ans à l'époque en France. Donc je travaillais auprès de jeunes, mais je regrette pas du tout cette période, et j'en ai gardé des bons souvenirs.
C'est bien de l'entendre, puisque à partir de quelques incidents qui se sont survenus ces derniers temps, il y a certaines personnes qui disent « voilà, moi, l'enseignement, non, plus jamais ». Est-ce que vous encouragez vos anciens élèves ou bien nos auditeurs jeunes qui écoutent en ce moment de ne pas fuir cette branche, puisqu'il y aura toujours des jeunes, il y aura toujours des enfants à éduquer? Il faut des éducateurs, non?
Bien sûr, bien sûr. Mais ce qu'il y a, c'est que éduquer, ce n'est pas simplement transmettre des règles et se faire obéir. Éduquer, c'est essayer de comprendre, c'est essayer de transmettre des valeurs, c'est essayer d'aider les jeunes à choisir eux-mêmes des valeurs et à s'y tenir. Si vous interdisez à un enfant de fumer, il aura envie de fumer en cachette. Mm-hmm. Si il a compris que c'était mauvais pour la santé de fumer, il décidera, lui, de ne pas fumer. Eh bien, avec les jeunes, c'est pareil. Si on veut imposer des choses aux jeunes, ils n'ont qu'une seule idée, comme nous-mêmes, c'est de désobéir. Par contre, si eux-mêmes choisissent des directions pour leur vie, eh bien, dans ce cas-là, ils les respectent. Et tout le travail d'éducateur, c'est de donner à ces jeunes un sens et de les aider à donner eux-mêmes un sens à leur vie et à faire des choix.
Vous avez mentionné à deux ou trois reprises ce mot valeur, valeur républicaine. J'ai entendu certaines personnes en parlant, disant que les vraies valeurs sur lesquelles sont fondées certaines sociétés sont en voie de disparition. Comment vous définissez vous-même ces valeurs-là, ces vraies valeurs?
Ben, je crois que toute société a besoin de repères. Or, on est dans une société qui, justement, fait tomber tous les repères traditionnels. Mais les valeurs, c'est ce qui donne un sens à la vie. C'est ce sur quoi nous basons notre vie. C'est des valeurs qui touchent à la relation avec les autres, le respect, la solidarité. C'est aussi des valeurs par rapport au respect de la nature. Bon, en tant que chrétiens, nous savons qu'il y a un créateur. Et même des gens qui n'ont pas de référence chrétienne, beaucoup considèrent qu'il y a un certain respect à avoir pour la nature. On voit l'engagement dans l'écologie. Ça fait partie de ces valeurs. Alors bien sûr, pour nous chrétiens, ces valeurs sont fondées sur la parole de Dieu, sur l'existence d'un Dieu qui nous aime, qui nous a créés, qui veut qu'on vive avec lui. Et puis pour d'autres, ces valeurs sont fondées sur des valeurs plus humanistes. Mais toute société a besoin de valeurs. Et en l'absence de valeurs, la société s'écroule.
Merci bien, Monsieur Roger Eickermann, notre invité pour cette édition spéciale de Sociopod. Alors, la sexualité reste un sujet tabou dans beaucoup de milieux. Pourtant, vous en avez fait un vrai sujet d'étude. Pour quelles raisons?
Eh bien, j'avais rencontré professionnellement de nombreuses situations où la sexualité tenait une place importante. Dès que j'ai été directeur d'établissement, j'ai dirigé un foyer mixte dans le contexte de libéralisation des mœurs des années 70. Il y a eu 1968 et la révolution, y compris sexuelle. En 68, un des slogans était « Il est interdit d'interdire ». Tout était permis. Alors diriger un établissement d'adolescents dans ce contexte, c'était un petit peu difficile. Et puis je m'étais occupé aussi professionnellement d'auteurs et de victimes de viols ou d'abus sexuels. Il m'a été demandé, en tant que ma fonction à la protection judiciaire de la jeunesse, puisque j'y étais directeur, il m'avait été demandé d'animer un comité de prévention des abus sexuels sur les enfants. Vous savez que maintenant, il y a des lois, on en parle beaucoup, il y a des lois pour protéger les enfants, il y a un numéro d'appel téléphonique pour signaler, mais ça n'existait pas il y a 20 ans. Et à la fin des années 80, la Seine-Saint-Denis, où je travaillais alors, était avec l'Isère, c'était deux départements pilotes, et où on a créé un comité pour expérimental pour faire de la prévention des abus sexuels. Et j'ai dû animer avec d'autres collègues ce comité. J'avais rencontré aussi des problèmes de sexualité dans des camps d'ados que j'avais dirigés. Et même dans l'église où j'avais exercé parallèlement des fonctions pastorales, j'avais rencontré des situations difficiles de couple, ou bien des adultères, l'homosexualité. Et pour tout cela, je n'avais que ma formation qui avait peu abordé les problèmes de sexualité. J'avais mon expérience de mari et de père de famille, mais je n'avais pas de compétences particulières. Et c'est à ce moment-là que j'ai saisi l'opportunité d'une formation et qui, pour moi, pouvait répondre à ce besoin.
Et ces études vous ont-elles permis de voir autrement ce sujet qui est encore tabou dans beaucoup de sociétés, même ici en France, dans ce grand pays développé économiquement, socialement? Est-ce que ces études-là vous ont apporté un plus dans votre connaissance de ce sujet?
Bien sûr, mais déjà je voudrais compléter un petit peu, parce que ça ne suffit pas de faire acte de candidature pour une formation. J'étais quand même très indécis, sachant que la sexualité, elle est souvent dominée par le péché ou toutes sortes de perversions, et en tant que chrétien je me disais, mais est-ce que c'est ta place d'aller dans ce genre de formation? Donc j'ai beaucoup prié à ce sujet-là, et lorsque j'ai envoyé ma candidature, j'ai mentionné toutes mes références chrétiennes, mes fonctions pastorales, mes engagements dans différentes associations où il y avait le mot chrétien ou évangélique dans le titre de l'association. J'ai mis tout cela en avant, et puis j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si je suis pris dans cette formation, c'est vraiment que toi, tu l'auras voulu. Si je suis éliminé, eh bien, c'est que tu auras fermé la porte, mais au moins, les choses seront claires. Et non seulement j'ai été pris dans cette formation, mais une fois que j'ai eu mon diplôme, à la fin de la formation, on m'a demandé d'intégrer l'équipe de formation de la faculté de médecine où j'avais étudié. Ce qui m'a permis de garder des contacts avec un certain nombre de confrères, et c'était quand même très utile. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que ça m'a permis de voir le sujet autrement? Oui et non. Je m'explique. Tout enseignement humain n'est pas forcément mauvais. C'est quand même Dieu qui donne l'intelligence aux hommes. Mais il y a aussi dans l'enseignement des choses qui ne viennent pas de Dieu. Et tout enseignement doit être compris et revu à la lumière de la parole de Dieu. Alors oui, j'ai acquis des connaissances scientifiques qui me permettent d'aider en cas de difficultés sexuelles, sans dire de manière simpliste, comme le font certains chrétiens, « il n'y a qu'à prier, ça va s'arranger ». Mais je dirais aussi, non, ça m'a pas, la formation n'a pas changé mon regard, car la sexualité, telle que la société la présente, est une idole. Et les chrétiens eux-mêmes n'en sont pas à l'abri. Dieu lui-même a inventé le plaisir par la sexualité, mais il en a donné le mode d'emploi pour le couple. Et ma référence reste la parole de Dieu. Elle est très claire dans ses principes, même si beaucoup de chrétiens lui font souvent dire ce qu'elle ne dit pas, en jugeant ou en imposant des conduites sexuelles. Vous savez, vous avez des chrétiens qui voudraient bien dire aux autres « ça vous avez le droit, ça vous n'avez pas le droit ». Et parfois on fait dire à la Bible des choses qu'elle ne dit pas.
Effectivement.
Mais donc, oui, mes études m'ont apporté un plus au niveau scientifique, mais non, ça n'a pas changé mon regard qui reste un regard basé sur la Bible.
Vous avez dit quelque chose d'extraordinaire. La société nous présente la sexualité aujourd'hui comme une idole. Pour certaines personnes, c'est vraiment un dieu, quelque chose qu'elles adorent quotidiennement, quelque chose de quoi elles ne peuvent pas se détacher. Comment expliquez-vous cette notion d'idolâtrie?
C'est pas la société qui la présente comme une idole. C'est en tant que chrétien, je dis que la sexualité est une idole. Et c'est vrai qu'elle l'est dans la société. Mais la société trouve ça normal. Elle dit pas c'est une idole. Alors comment l'expliquer? Je crois que la sexualité, elle est partout. Elle mène toute la société. Elle est liée d'une part au plaisir. D'autre part, elle est nécessaire à la survie de toute société. Aussi, depuis l'origine de l'humanité, elle a été pervertie. Et aussi loin qu'on remonte dans l'histoire, on voit la sexualité qui est pervertie ou qui est canalisée, qui est réglementée, qui est utilisée par la société. Et même je ne sais pas si vous l'aviez évoqué dans l'émission sur la pornographie que vous avez déjà fait. J'avais même relevé que dans les peintures qu'on retrouve dans les grottes préhistoriques, on trouve déjà des représentations sexuelles. Et toutes les sociétés interviennent dans la sexualité. Alors, dans une vision chrétienne, même si la Genèse montre que l'intimité physique a été voulue par Dieu est donné pour le couple avant que le péché existe, ça c'est très important de le rappeler, parce que dans notre société, on associe automatiquement sexualité et péché. Et pourtant, Dieu a donné l'intimité physique pour le couple, ils deviendront une seule chair avant que le péché existe. Ça c'est important de le rappeler.
Et ça c'est dans le cadre du mariage.
Et dans le cadre du mariage, bien sûr. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. On a ça dans la Genèse, on a ça dans les évangiles, Jésus le cite mot à mot, et on a ça dans les épîtres de Paul.
Merci bien.
L'épître aux Éphésiens. Avec exactement le même mot à mot. Donc cette intimité physique, elle est voulue par Dieu. Et ça, c'est important. Mais au-delà de ce don de la sexualité par Dieu pour le couple, elle a souvent été pervertie, elle devient un instrument privilégié de la tentation et du péché. Alors, en dehors de toute référence religieuse, la sexualité est aussi un instrument de domination et d'exploitation. Les États, par leurs lois, interviennent dans la sexualité. C'est la loi, par exemple, prévoit le remboursement de l'avortement hein, ou de la contraception. Les lois réglementent la sexualité. Plus ou moins ouvertement, il est fait appel à la sexualité dans la publicité.
Effectivement.
Elle est présente dans toutes les expressions artistiques, puisque tous les gens sont concernés par la sexualité et par le rapport au plaisir. Donc les artistes font référence souvent à la sexualité. On la retrouve aussi dans la prostitution, dans de nombreux crimes ou délits. La sexualité. Donc vous voyez, la sexualité, elle joue un rôle partout dans le monde, hein, dans la société. Donc on peut pas passer à côté.
On peut pas passer à côté, effectivement. Alors, vos connaissances bibliques, est-ce qu'elles s'appliquent facilement dans votre vision de la sexualité, selon ce que vous venez de dire là? C'est ce que vous sous-entendez, en fait.
Il n'y a pas de problème, parce que la sexualité, elle est pervertie dans la société, mais dans la mesure où c'est Dieu qui l'a inventée et qui l'a donnée pour le couple, la Bible en parle, la parole de Dieu parle de sexualité, et elle en parle de manière positive. Il faut un petit peu faire le ménage dans nos têtes entre ce que l'on fait dire à la Bible et ce qu'elle dit réellement. Par exemple, on est un peu gêné du plaisir, comme s'il y avait à se sentir coupable d'avoir du plaisir. Mais on peut se rappeler que Moïse, par exemple, quand il a reçu les règles que Dieu lui a données pour conduire le peuple, eh bien, il était prévu que les jeunes recrues, les jeunes juifs soldats, étaient exemptés d'armée la première année pour réjouir leurs femmes, pour avoir du plaisir avec leurs femmes.
Profiter de leur mariage au maximum.
Voilà, pour profiter du mariage. Si Dieu était contre la sexualité, contre le plaisir au travers de la sexualité, il n'y aurait pas dans nos Bibles Cantique des Cantiques, qui est un merveilleux chant d'amour.
L'un des plus beaux livres de la Bible, un livre poétique surtout. Alors j'aimerais rappeler à nos auditeurs qu'ils écoutent une édition spéciale de Sociopod consacrée aujourd'hui au ministère de Monsieur Roger Eckermann, notre invité. Alors, petite parenthèse, vous travaillez aussi, je ne sais pas si c'est dans un cadre bénévole pour la radiofréquence protestante. Alors, vous pouvez nous parler brièvement de cette émission, qu'est-ce que vous faites sur cette radio effectivement?
Alors là, il s'agit non plus en tant que sexologue, mais là j'interviens en tant que chrétien engagé, responsable d'associations, pour animer des émissions qui ont pour but de faire connaître ces associations. Donc ce sont deux associations, d'une part l'une qui s'occupe d'accueil de jeunes en grande difficulté sociale, donc des foyers éducatifs, et l'association s'appelle La Bienvenue. Et puis l'autre association s'appelle Action Sociale et Évangile et a pour but de promouvoir un engagement des chrétiens, surtout des chrétiens évangéliques, dans des œuvres sociales, soit comme à titre individuel, comme salarié dans ces œuvres sociales, soit au niveau d'église pour organiser des œuvres sociales qui sont des occasions de témoignage là où elles sont implantées.
Et ces émissions se diffusent régulièrement, chaque semaine?
Chaque mois.
Chaque mois.
Une émission chaque mois, chaque mois et en alternance pour les deux associations que j'anime. Donc ça fait pour chaque association, c'est une fois tous les deux mois.
Merci bien, Monsieur Eckermann. Nous allons prendre une pause musicale pour revenir après ce chant que nous dédions à tous les amis à l'écoute dans la ville de Rosny-sous-Bois, c'est ça?
C'est ça, oui.
L'artiste Daniel Piala.
Va falloir que j'y vienne.
Faut que je drie. Extrait de son album Je me fais du souci. Bonne écoute.
Dans ma tête, c'est un de ces bazars. Colossal, ça ressemble à hier matin quand je suis rentré dans le bureau. C'était la misère. Je vous dis pas du pâté par terre.
Sociopode.
Le truc bien gras, ma paire de baskets. Sur le tas, Faut dire manger pieds nus quand j'ai pas le temps, ça me déstresse. Faut que je trie dans mes affaires. Faut que je trie. Faut que je trie dans mes affaires. Faut que je trie. Va falloir que je m'y mette. Faut que je jette. Va falloir que je range. Faut que ça change. Faut bien la chasser. Cette poussière. J'ai besoin d'un bulldozer et d'un bon coup de serpillière. Va falloir du temps. Forcément, peut-être même souffrir. Un moment, mais si je veux voir clair. Je fasse du ménage avec un bon désinfectant. Faut que je trie dans mes affaires. Faut que je trie. Faut que je trie dans mes affaires. Faut que je trie. Tant de temps passé de travers, entassé sur mes étagères. J'ai besoin de trouver les bonnes étiquettes et m'y retrouver et me retrouver. Faut que je trie dans mes affaires.
Sociopode.
L'émission Sociopode continue sur votre radio Ebenezer International. Je suis votre ami Franck Doristil qui vous parle depuis la ville de Rosny-sous-Bois où notre invité Monsieur Roger Ekerman nous a accueillis amicalement dans son bureau pour ce programme. Monsieur Ekerman, vous avez pris en 2001 une retraite anticipée pour vous consacrer au ministère chrétien. Était-ce à la suite d'un constat quelconque, d'une déception? Expliquez-nous un petit peu.
Ben, j'ai fait toute une carrière dans l'administration. Hein. Mais par rapport à la sexualité, il y avait ce constat d'un manque d'information des chrétiens. Mm-hmm. Hein, et cela m'avait motivé déjà pour reprendre des études dans ce domaine. Et étant jeune converti, puisque je l'ai dit tout à l'heure, je m'étais converti enfant, lorsque je suis arrivé après le bac, la question s'était posée pour moi de rentrer dans le ministère à plein temps, de faire une formation théologique dans un institut biblique ou une faculté de théologie pour devenir pasteur ou évangéliste ou missionnaire. Et je n'ai pas ressenti à ce moment-là l'appel du Seigneur pour cela. Donc j'ai eu une carrière de fonctionnaire, hein, ce qui m'a libéré pendant toute ma vie du souci financier. Mm-hmm. Mais je rappelle quand même que quand on est chrétien, on est serviteur de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et même quand on a un emploi alimentaire par ailleurs, mais sans avoir à être payé comme pasteur, j'étais libre, je ne coûtais rien, tout en ayant mes engagements. Quoi. Alors à partir du moment où j'avais la possibilité de partir sans trop y perdre au niveau de ma retraite, bon, c'est un sujet dont on parle beaucoup actuellement, mais j'étais quand même dans un corps de fonctionnaires qui était réputé difficile, puisque s'occuper de jeunes délinquants, c'était pas facile. J'avais quand même une prime de risque. C'est un métier difficile et je bénéficiais encore de dispositions qui me permettaient de partir à 55 ans. Mm-hmm. Donc je n'ai pas demandé mon reste. Dès que j'ai pu partir, je suis parti. Et ce qui me permet maintenant de me consacrer au ministère sans être à charge financièrement.
Monsieur Ekerman, dans certaines églises chrétiennes, on aborde les questions sexuelles que lorsque l'un des membres est tombé dans la fornication ou dans l'adultère. Pourquoi cette hypocrisie à votre avis?
Je vous trouve à la fois conciliant, quand vous dites certaines églises chrétiennes, car il faudrait dire presque toutes, mais en même temps je vous trouve sévère quand vous parlez d'hypocrisie. Je ne pense pas qu'il y ait hypocrisie, mais on ne peut transmettre que ce qu'on a soi-même reçu. Or, les églises sont démunies. Donc ce n'est pas par hypocrisie, c'est parce qu'elles ne savent pas ou elles ont peur. Pour diverses raisons, elles n'abordent pas le sujet de la sexualité. D'une part, la sexualité est tellement présente dans le monde et liée au péché que les églises ont peur d'aborder ce sujet. En outre, il est difficile d'être à l'aise avec un sujet qui concerne le plaisir. Et dans notre culture, on associe plaisir et récompense, souffrance et punition. Or, le plaisir sexuel n'est pas une récompense, donc il n'est pas mérité. Et avoir du plaisir sans l'avoir mérité, c'est source de culpabilité et de honte. En outre, c'est un sujet qui concerne l'intime, et par pudeur, personne n'ose se lancer. Donc vous voyez, toutes ces raisons font que dans les églises, on n'arrive pas à aborder le sujet de la sexualité. Remarquez bien que ce n'est pas spécial à l'église, et cette peur d'aborder la sexualité est fréquente dans beaucoup de familles. Alors, faute de parler positivement et de manière préventive de la sexualité, on ne le fait que lorsqu'un problème grave se pose, un adultère, un abus sexuel. Et plusieurs fois, on m'a demandé de venir parler dans une église à la suite d'un problème grave, un petit peu comme si on avait appelé les pompiers, quoi.
Oui, merci pour cette réponse donnée avec beaucoup de sagesse. Vous vous penchez beaucoup sur le cas des jeunes, ce qui sous-entend une vraie prise de conscience du fait qu'ils ont un grand besoin de bonnes informations à ce sujet, n'est-ce pas?
Ben oui, parce que j'ai toujours travaillé auprès de jeunes. Et puis, bon, les gens âgés, le problème ne se pose plus pour eux. Donc l'intérêt des jeunes pour la sexualité est tout à fait naturel et n'a rien de pervers ou vicieux. C'est normal que les jeunes s'intéressent à la sexualité. D'une part, leur corps découvre de nouvelles sensations. D'autre part, la sexualité fait partie du monde des adultes. Or, les jeunes sont impatients d'accéder à ce monde des adultes, avoir un certain savoir ou même de l'expérience représente pour des jeunes la sortie de l'enfance. Donc ils ont une certaine curiosité et ils ont envie de la mettre en acte, cette curiosité. Et donc le dialogue avec les jeunes est indispensable pour justement leur donner des explications et qu'ils aient le sentiment de savoir ce qu'ils ont envie de savoir. Et plus ils ont d'explications, moins ils ont envie de passer à l'acte.
Oui, c'est ça. Et vous avez déjà donné la réponse à cette question, mais je vous la pose quand même. Certains responsables d'église et des pères et mères de famille semblent sous-estimer cette soif de la part des jeunes d'avoir de bonnes informations sur leur vie sexuelle ou sur la sexualité.
La prise de conscience de ce besoin d'information est lente, surtout chez les chrétiens. Mais c'est aussi parce qu'on a tellement de mal à aborder les questions de sexualité. Et alors, faute de réponse à leur curiosité, je le rappelle, tout à fait normale, les adolescents n'ont que les réponses de la société, dominées par l'immoralité ou le rejet des principes bibliques. Mais en même temps, les jeunes sont très pudiques devant les adultes. Ils sont plus à l'aise entre eux, et surtout pas avec les adultes de leur entourage, comme leur famille ou les responsables de leur église. Donc vous voyez, il y a un besoin de formation, mais les églises ne se sentent pas qualifiées pour la porter. Les jeunes n'ont pas trop envie de la recevoir de la part de gens avec qui ils vivent et qui les connaissent, et dont ils peuvent craindre le jugement aussi. Mais le besoin existe. Quoi.
Et la famille et le couple ont aussi une place prépondérante dans vos démarches. Comment l'expliquez-vous?
Je m'efforce de sensibiliser les familles à l'importance de leur rôle dans la transmission d'exemples et de valeurs. On parlait tout à l'heure de valeurs, je reviens là-dessus, puisque c'est la famille qui peut les transmettre. La sexualité n'a pas seulement un aspect mécanique que n'importe qui peut transmettre, n'importe quel professeur de science peut transmettre des informations dans ce domaine. Mais la sexualité intervient dans un couple où s'expriment des sentiments et où l'on partage des valeurs morales. Et là, il faut bien que ce soit transmis. Donc, je m'intéresse beaucoup à la famille et au couple parce que c'est elle qui va pouvoir transmettre. Et si les jeunes sont plus à l'aise avec une personne extérieure à leur famille pour parler de leur corps et de leur intimité, c'est quand même avant tout à la famille de transmettre une éducation sentimentale et morale.
Et l'émission Sociopode continue sur la radio chrétienne Ebenezer internationale avec notre invité Monsieur Roger Eckermann, un sexothérapeute chrétien. Et je peux considérer cela comme une grande bénédiction pour l'Église, pour la société même, puisqu'il y a beaucoup de besoins, beaucoup de manques dans ce domaine. Et quel est Monsieur Eckermann, puisqu'on parle de la famille, et dès qu'on parle de famille, il faut aussi penser à l'adultère, le divorce, l'homosexualité. Quelle est votre position face à certaines tendances que nous venons de mentionner? Comment abordez-vous ces points dont la sensibilité augmente de jour en jour?
Alors, je crois que cela a toujours existé, mais si cela est de plus en plus fréquent, c'est parce que la société, et hélas parfois aussi les chrétiens, ne prennent plus au sérieux le mariage tel que la Bible le propose, c'est-à-dire l'engagement mutuel de deux personnes l'une envers l'autre. Et souvent, le mariage n'est plus qu'une sorte de simple contrat d'association qu'on remet en cause dès que le partenaire ne donne plus entière satisfaction. On considère un petit peu le conjoint comme sa machine à laver ou son téléviseur. Mmh. Quand il est en panne, on le balance. Donc, le mariage ne repose plus sur le vivre ensemble, même avec des difficultés s'il y en a, qu'on va dominer ensemble. Mais sur le droit de chacun au plaisir, sexuel ou autre. D'où la banalisation du divorce, ou bien la banalisation aussi d'autres formes de vie conjugale sans engagement véritable, comme la cohabitation, l'union libre, le pax, la jouissance sans engagement. Alors l'adultère commis par une personne mariée n'est plus perçu comme une trahison par rapport à un engagement de fidélité donné au moment du mariage. C'est, la société présenterait presque ça comme quelque chose de normal. Alors je défends les principes contenus dans la Bible, non par jugement moral, mais parce que je suis convaincu que Dieu les a donnés pour notre bien et pour nous éviter bien des souffrances. Je crois que c'est pas parce que la Bible donne des règles que c'est pour nous embêter. Au contraire, c'est pour notre bien.
Et Monsieur Roger Eckermann, que pensez-vous de l'attitude actuelle des médias par rapport à la sexualité, puisqu'on s'en sert dans les publicités, pour la vente des voitures, des parfums? Cette banalisation du sexe n'est-elle pas nocive pour les plus jeunes et même certains adultes?
Je crois qu'il y a de toute façon une espèce d'escalade dans les médias par rapport à la sexualité. Alors d'une part, effectivement, elle est utilisée dans tous les domaines, comme la publicité. Mais les médias sont en permanence en situation de concurrence et des sommes considérables sont en jeu. Donc flatter les plus bas instincts, présenter les idées à la mode au détriment des valeurs traditionnelles sont des pratiques habituelles. Et on le voit bien avec toutes les émissions de télé-réalité. Moi, je me souviens, il y a une quinzaine d'années, il était sorti un rapport fait par l'Institut de recherche, statistique de recherche médicale, l'INSERM, sur les comportements sexuels des Français. Et ce rapport montrait finalement que 80% des Français avaient un partenaire hétérosexuel et un partenaire stable, marié ou pas, mais c'était tellement banal que ce rapport, on en a parlé le jour où il est sorti et c'est tout, parce qu'il allait à l'encontre des idées à la mode que le Français c'est un super champion, qu'il a beaucoup de partenaires sexuels. C'était tellement banal. Ce même rapport disait que l'homosexualité concernait un tout petit pourcentage de la population, mais il était tellement à l'encontre de ce qu'on dit habituellement qu'il est tombé vite aux oubliettes. Alors, les médias disent un peu n'importe quoi par rapport à la sexualité, et elle est un terrain privilégié pour les médias. Et en banalisant tant le sexe pour lui-même, la société, enfin les médias, lui retirent tout ce qu'il implique de sentiments et d'engagement. Mmh. En même temps, on banalise toutes les perversions qui deviennent ainsi acceptables. Dans toutes les émissions de télé-réalité, tout existe. Hein, mmh. Et puisque puisqu'on l'a vu à la télé, c'est acceptable. Il est vraisemblable que dans quelques années, le mot même de perversion sera interdit. Parce que de dire que parler de perversion, c'est émettre un jugement, donc faut pas se faire d'illusions. Il arrivera un moment où on n'aura plus le droit d'évoquer des perversions. Il en ressort, pour les jeunes comme pour certains adultes, que tout est permis et ne porte pas à conséquence. Donc bien sûr que les jeunes, mais certains adultes aussi, ils ont envie de faire n'importe quelle expérience. Et ça, c'est parce que les médias banalisent le sexe et toutes les pratiques sexuelles.
Merci bien, monsieur Eckermann. Nous allons prendre notre deuxième pause musicale. Mais juste avant, comment pouvez-vous définir la vraie libération sexuelle, puisque vous avez parlé des événements de mai 1948 68, pardon, excusez-moi, chers auditeurs. S'il y a vraiment une vraie libération sexuelle, comment la définissez-vous?
Quand la société parle de libération, en fait, elle parle de prise de liberté par rapport à des règles traditionnelles. Mais alors, peut-on vraiment parler de libération? Je vais y revenir. Il est vrai que dans l'histoire, les religions, les lois ou les pratiques sociales ont toujours voulu réglementer la sexualité et, d'une certaine façon, une certaine libération était souhaitable. D'ailleurs, on le voit encore dans certains pays où il n'y a aucune liberté sexuelle ou autre, hein, où les femmes, par exemple, peuvent revendiquer d'être respectées et être considérées à égalité de droit avec des hommes. Mais si une certaine libération était souhaitable, il y avait quand même une condition, c'était de maintenir quand même un minimum de règles qui donnent des limites à cette liberté. Et d'autre part, il faut aussi qu'il y ait une responsabilité qui accompagne la liberté. Or, le sexe est source de plaisir. Apprendre à différer un plaisir ou à s'en priver si certaines conditions ne sont pas remplies, c'est le fondement de toute vie en société. Mmh. On ne fait pas ce qu'on veut. Mais c'est valable pour le sexe, mais c'est valable pour d'autres choses. Même si j'avais du plaisir à rouler à 150 à l'heure dans les rues de Rouen, je n'ai pas le droit de le faire. Mon plaisir s'arrête là parce que la loi fixe des limites. Et c'est valable dans tous les domaines. On interdit de vendre de l'alcool ou du tabac à des mineurs. Mais en même temps, dans un pays voisin, la Suisse, on vient de commercialiser des préservatifs de petite taille pour les enfants. Il me semble que c'est une étonnante façon d'apprendre la maîtrise et la responsabilité, ça. Alors, séparé de son contexte de sentiments, le sexe devient souvent incontrôlable. Et cette pseudo-libération sexuelle, cette fausse libération sexuelle, en réalité est souvent un esclavage.
Déclaration du sexothérapeute chrétien Monsieur Roger Eckermann. Nous allons prendre la dernière pause musicale avant de terminer notre émission et nous vous promettons de revenir avec la suite de cette interview dans une prochaine édition de Familia Pod. Et pour clore cette page, nous vous proposons Liberté de Dany et Moïse Yotrel. Bonne écoute à toutes et à tous.
Tu as laissé les hommes libres de choisir.
Sociopode.
Libres de préparer ou non leur avenir. Qu'ont-ils fait de leur liberté? Ont-ils su bien l'utiliser? Ont-ils compris le cadeau que dans ton amour tu leur faisais? Tu aurais pu nous soumettre à ta volonté, faire de nous des robots sans personnalité. Tu as préféré nous créer en nous laissant la liberté de te choisir ou alors de te rejeter. Tu ne pourras jamais comprendre ce grand mystère, toi le créateur de tout l'univers, qui pourrait sonder tes voix et connaître tes pensées. Et les hommes lèvent le poing contre le ciel, sans penser que si tu voulais,
sur la vie, tu pourrais bien inscrire le mot femme, mais tu as laissé les hommes libres de choisir. Libre de préparer ou non leur avenir. Qu'ont-ils fait de leur liberté? Ont-ils su bien l'utiliser? Ont-ils compris le cadeau que dans ton amour tu leur faisais? Tu aurais pu soumettre à ta volonté. Faire de nous des robots sans personnalité. Tu as préféré nous créer en nous laissant la liberté de te choisir ou alors de te rejeter. Tu as placé sur le chemin de tous les hommes la possibilité de rencontrer celui qui change la vie, apportant le vrai bonheur. Seulement tu n'as jamais obligé personne, tu ne forces pas les cœurs. Oh Seigneur, que tous ici choisissent la vie, car tu as laissé les hommes libres de choisir.
Sociopode.
Libre de préparer ou non leur avenir. Ont-ils fait de leur liberté? Ont-ils su bien l'utiliser? Ont-ils compris le cadeau que dans ton amour tu leur faisais? Tu aurais pu nous soumettre à ta volonté. Faire de nous des propos sans personnalité. Tu as préféré nous créer en nous laissant la liberté de te choisir ou alors de te rejeter.
Tu as laissé les hommes libres de choisir.
Seigneur, choisisse la vie.
Vous écoutez Sociopode sur la radio chrétienne Ebenezer International.
Every day, anywhere, anytime, the digital gospel journal, Ebenezer International, your station.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis fidèles de la radio chrétienne Ebenezer International, voilà qui met fin à ce nouveau numéro de Sociopode qui était consacré au ministère de M. Roger Ackerman, sexothérapeute chrétien. Ce m'était un agréable plaisir de passer en votre compagnie ces précieuses minutes à l'écoute de ces conseils ô combien salutaires. Je vous promets de revenir avec la suite de cette interview dans une prochaine édition de Familia Pod que nous compléterons avec la suite de notre intervention autour de la lettre à un adolescent ou à une adolescente du même auteur. Si ce programme vous a plu, si vous avez des commentaires, des suggestions ou des questions, vous pouvez les adresser directement à M. Ackerman, puisque nous avons laissé son lien sur notre site, y compris son numéro de téléphone, son adresse email. Vous êtes libre de le contacter. Et si ces questions concernent les émissions de la Radio Ebenezer International, vous pouvez nous les envoyer via cette adresse, francradio@podomatic.com. Je répète, francradio@podomatic.com. Et avant de prendre congé de vous, chers auditeurs et auditrices, j'aimerais remercier une nouvelle fois M. Roger Eckermann d'avoir accepté notre invitation pour la réalisation de cette émission qui ne manquera pas de nous bénir tous. J'aimerais remercier également tous les artistes qui ont apporté leur amicale contribution à cette édition de Sociopod. Commençons par l'artiste Philippe Decoureau de la Suisse, l'artiste Daniel Piala de la France, ainsi que Dani et Moïse Urtrel, sans oublier le couple Denisa, Denis et Isabelle Haye, avec qui nous allons vous laisser à la fin de l'émission. Je remercie également l'artiste Pat Bernin, à qui nous devons le générique de l'émission, sans oublier la société Sephora Musique de la Vie pour sa fraternelle collaboration avec ce ministère. Et à vous tous qui étiez branchés depuis le début de l'émission jusqu'à cette dernière minute, je vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous pour une prochaine édition de Sociopod. C'était pour vous servir, au micro et à la réalisation, votre ami podcasteur, Franck Touristil, qui vous dit une fois de plus merci, que le Seigneur vous bénisse et au revoir. Vous venez d'écouter Sociopod sur la radio chrétienne Ebenezer International.
Entre ce que je pense et ce que je veux dire, ce que je crois dire. Thank you.
s'entendre.
Sociopode.
Sociopode. Sociopode. Sociopode. Sociopode.